Vous écoutez La Belle Antenne, votre émission culture à 18h sur Radio Phoenix.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Phoenix, il est 18h, c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je suis Romane et je suis ravie de vous retrouver pour cette heure d'émission spéciale puisque ce soir, Phoenix quitte son studio pour poser ses micros à l'IMEC, l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine situé à Saint-Germain-la-Blancherbe, dans le lieu exceptionnel de l'abbaye d'Ardennes. Et on est donc en direct du vernissage de sa toute nouvelle exposition « Fragments du rêve » à découvrir du 6 juin au 30 novembre 2025. Le secret des rêves est dans les archives, c'est ce que nous verrons en compagnie de nos invités du soir avec, dans un premier temps, Nathalie Léger, directrice générale de l'IMEC, qui vous présentera la structure et reviendra avec nous sur le partenariat avec le centre Pompidou et plus précisément sur la collection filmique proposée avec la présentation du court-métrage La Petite Marchande d'Allumettes de Jean Renoir, sélectionné par le conservateur du Musée National d'Art Moderne, Philippe Alain Michaud, et projeté ce soir à 19h30. Ensuite, ce seront Claire Pollan, commissaire de l'exposition et historienne de la littérature, accompagnée d'Olivier Schaeffer, philosophe et écrivain, enseignant à l'université Paris-Sorbonne 1, qui poursuivront cet échange en revenant sur l'élaboration de Fragments du rêve, qui donnera également lieu à l'apparition d'un livre du même titre demain, vendredi 6 juin. En seconde partie d'émission, nous retrouverons les jeunes ambassadeurs de la culture en plateau pour un temps de témoignage autour des différentes missions qu'ils ont pu réaliser à l'IMEC, entre montage des expositions, accueil des publics et des événements ou encore organisation de rencontres avec les auteurs. L'occasion pour nous aussi de vous présenter ce dispositif lancé par Quand la mer à destination des lycéens. Enfin, nous retrouverons Cyril Méniol de Cizancourt, chargé de développement pour un temps consacré au Jardin d'Ardennes, un temps qui vous propose de faire le tour de la programmation de cet été pour pouvoir en profiter pleinement. Bien sûr, La Belle Antenne, c'est aussi de la musique et tout de suite, on passe au son du jour. Le son du jour, c'est Moon Eyes d'Obong Jayar. Obong Jayar, vous l'avez peut-être découvert au travers de ses deux précédents albums et de ses premiers singles en 2016 qui annonçaient déjà le potentiel du chanteur nigérian au timbre de voix inégalable. Avec un style musical difficile à décrire, Obong Jayar floute toujours les pistes dans son album 15 titres, Paradise Now, oscillant entre des ambiances solaires, planantes et parfois frappantes. Point fort de ce nouvel album, son ambition instrumentale marquée par ses notes électro, ses guitares folk blues qui viennent ponctuer le tout, sa voix évidemment et bien sûr sa collaboration avec l'artiste Little Zims. Alors pour ce direct à l'IMEC, je ne vous emmène pas dans l'univers du duo que l'on aura certainement l'occasion de redécouvrir, mais plutôt dans celui de Moon Eyes qui résonne avec les fragments du rêve présents entre les murs de l'abbaye d'Ardennes. Tout de suite, on s'écoute Moon Eyes d'Obong Jayar sur Phoenix.
Loving you, yeah, covering you, loving you, yeah, I'm a new.
C'était Moon Eyes d'Obong Jayar et tout de suite, on accueille nos invités du soir.
L'invité du soir dans La Belle Antenne.
Notre première invitée du soir, c'est Nathalie Léger, écrivaine, éditrice et directrice de l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Alors ce soir, on se retrouve donc à l'IMEC, un lieu à la fois pluriel et singulier, avec un projet atypique, comme vous le décriviez l'année dernière déjà au micro de La Belle Antenne, puisqu'il est avant tout fondé sur une très grande collection d'archives, une collection très importante qui s'étend sur plusieurs kilomètres et volumes et qui compte aujourd'hui plus de 750 fonds. En quelques mots, Nathalie, pourriez-vous nous présenter les actions de l'IMEC tout au long de l'année, son essence ?
Tout se passe à partir de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire cette grande collection d'archives littéraires. C'est en effet, comme vous l'avez dit, une masse, un volume, 30 km linéaires, comme on dit. Mais c'est surtout autant de ressources pour bifurquer, inventer, découvrir. Il s'agit à la fois d'ouvrir notre collection à la recherche. C'est un travail très important qui mobilise une part évidemment très significative de notre équipe. Mais à partir de ça, en fait, on peut la faire rayonner de mille manières. Il s'agit donc de parler de quoi ? En parlant d'archives, on parle non seulement de mémoire, bien sûr, mais on parle surtout de travail, de ce qui se joue dans la création. Qu'est-ce que c'est qu'un texte en train de s'écrire ? Qu'est-ce que c'est qu'une mise en scène en train de s'élaborer ? Qu'est-ce que c'est qu'une idée en train de naître ? C'est ça que permet l'archive. Et donc, à partir de ça, on organise beaucoup de rencontres avec des écrivains, on organise des concerts. Par exemple, la semaine dernière, il y avait le physicien Étienne Klein et le guitariste Olivier Mélano dans un dialogue. Et, au fond, l'idée du dialogue est toujours intéressante. Elle raconte aussi ce que c'est qu'un travail de recherche, c'est-à-dire d'une rencontre naît... de nouvelles idées, de nouvelles émotions. Et l'archive est toujours un lieu très riche d'émotions, bien sûr.
En plus d'être un lieu riche d'émotions, vous présentez l'archive aussi comme objet de rêverie, un lieu propice à la rêverie. Et ce soir, on inaugure justement l'exposition Fragments du rêve, donc que vous accueillez au sein de l'IMEC, une exposition pensée comme une forme d'enquête, un voyage qui s'articule autour de 300 documents environ, projections, manuscrits, photographies, archives réunies et présentées à cette occasion. Alors avant qu'on vienne plus en détail sur l'un des temps forts de ce vernissage, qui est donc la projection du court-métrage de Jean Renoir avec la petite marchande d'allumettes à 19h30, j'aimerais revenir sur cette formule qu'on retrouve également en présentation de l'exposition. Les archives sont le plus grand conservatoire de rêves au monde, qui rejoint aussi votre manière à vous d'appréhender les archives.
C'est-à-dire que lorsque Claire Polland, la commissaire de l'exposition, et Olivier Schaeffer est l'auteur du livre qui l'accompagne. Lorsque Claire nous a dit je propose de faire une traversée des collections de l'IMEC à partir de l'idée du rêve, à la recherche du rêve dans les archives de l'IMEC, je dois dire que j'ai tout de suite, c'est une idée merveilleuse parce qu'il suffit de travailler dans les archives, surtout les archives littéraires, pour mesurer à quel point le rêve est partout présent dans ces archives. Alors non seulement sous forme de grandes enquêtes anthropologiques, sociologiques, la psychanalyse bien sûr, mais surtout dans les objets les plus intimes. Au fond, même chacun de nous le sait, on se réveille et on écrit ses rêves, ou on les raconte, mais on les écrit. Donc l'archive est le témoignage de cet effet si... Comment dire, de ce voisinage si proche du rêve qu'est l'écriture. Voilà, c'est ça qu'on expose.
Et en plus du coup des archives écrites, vous collaborez avec le Centre Pompidou, c'est un véritable partenariat.
Le Centre Pompidou est un partenaire très fidèle. C'est pas la première fois que nous associons nos deux collections. Le papier d'une part, on va dire, disons l'écriture d'une part, et l'image, le film, le visuel d'autre part. Là, le rêve imposé, l'implication du film, parce que c'est vraiment à la fois dans l'archive, il y a la question de l'inscription, enfin de l'inscription, au réveil, la tentative de faire un récit à partir des impressions de la nuit, des récits qui se sont imposés dans le sommeil. Mais alors avec le film, là, on a toute la matière des images. Et ça nous permet aussi de montrer des petits chefs-d'œuvre dans l'exposition. Et je pense notamment à l'œuvre de Maya Deren, Meshes of the Afternoon, mais surtout Philippe Alain Michaud, que vous avez mentionné, a beaucoup d'idées sur le sujet et nous permet de découvrir des œuvres très expérimentales. Et la rencontre entre l'image et le papier est parfaite, je trouve.
Et justement, ce soir, donc à 19h30, la petite marchande d'allumettes de Jean Renoir.
Alors, il a proposé, le conservateur du Centre Pompidou proposait de montrer cette œuvre, qui est une œuvre des premiers moyens-métrages, on va dire. C'est une œuvre de 30 minutes, un des premiers films de Jean Renoir, une œuvre de 1928, et qui vient, au fond, Jean Renoir a une passion du trucage. Et la petite marchande d'allumettes, et au-delà de l'émotion qu'il a filmé sa jeune épouse, eh bien, cette passion du trucage est aussi à l'œuvre, dans cette œuvre qui met, en même temps qu'elle met en scène le rêve, mais aussi en scène le cinéma.
Eh bien, Nathalie Léger, un grand merci à vous. Alors, en attendant, on va bientôt recevoir nos prochains invités. Claire Pollan, commissaire de l'exposition, éditrice et historienne de la littérature, et Olivier Schaeffer, philosophe, écrivain et enseignant à l'Université Paris-Sorbonne 1, spécialiste en esthétique. Alors, bonsoir à vous, Claire Pollan, et bonsoir à vous, Olivier Schaeffer. Alors, Claire Pollan, je m'adresse d'abord à vous parce qu'aujourd'hui, on se retrouve donc pour le vernissage de cette exposition à l'IMEC, Fragments du rêve, à vos côtés, Olivier Schaeffer, dont l'ouvrage du même titre paraîtra demain, le vendredi 6 juin, aux éditions l'IMEC. Alors, le rêve, ici, n'est pas celui qui rime avec l'ambition de devenir roi un jour, comme on a pu l'entendre, mais plutôt celui qui rime avec le sommeil, l'inconscient. Mais comment cette exposition, finalement, a-t-elle vu le jour et quels étaient les enjeux et les envies derrière elle ?
Alors, c'est très simple. C'était un sujet qui, personnellement, me trottait dans la tête depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé à l'IMEC pendant 25 ans, donc je connais assez bien certains fonds d'archives. Et je me disais, ça serait vraiment beau de mettre des récits de rêve, de les faire apparaître au jour, comme ça. Et le projet s'est concrétisé. Après, il a été assez difficile, une fois qu'on a réuni des récits de rêve, de savoir comment on allait les classer et les présenter. Et c'est là où l'objet de l'exposition a été particulièrement difficile à concevoir. Mais on a pu régler un certain nombre de problèmes en présentant les rêves de manière chronologique, par exemple, ce qui est assez rare d'ailleurs. En général, on les présente de manière thématique. Et là, la chronologie, ce qui fait qu'on présente 45 rêves qui représentent à eux seuls un siècle de rêves de 1908 à 2008, dans la grande vitrine noire qui fait 16 mètres de long.
Alors, on l'évoquait déjà tout à l'heure avec Nathalie Léger, mais il y a une expression forte qui revient dans cette exposition, c'est l'archive comme conservatoire de rêves. D'ailleurs, l'exposition est un véritable conservatoire, on a pu le voir, puisqu'elle propose une partie pensée chronologiquement, comme vous le disiez, avec un siècle entier de rêves et de cauchemars aussi écrits, racontés. Alors, vous, Claire et Olivier, rejoignez aussi cette correspondance entre archives et rêves, et plus largement, vous intéressez au sein de cette exposition à l'écriture du rêve. Alors, je vais vous poser la même question que Nathalie tout à l'heure, mais ce lien fort entre archives et rêves, comment vous l'avez appréhendé ?
Écoute, bonjour d'abord. Comment je l'ai appréhendé ? Je trouve que les rêves nous donnent à penser ce qu'est l'archive au plus près, puisque finalement, lorsqu'on rêve, on est pris dans un ensemble d'émotions, de sensations, etc. Et dès lors que l'on veut en parler, ou qu'on veut surtout écrire les rêves, ceux-ci ont disparu ou sont en train de disparaître. Et donc il y a un rapport à ce qui s'efface, à ce qui disparaît. Donc écrire, c'est d'une certaine façon, ces rêves, j'entends, c'est de retenir ce qui va disparaître, c'est d'en faire mémoire. Et en même temps, c'est toujours s'interroger sur ce que c'est que l'oubli. Hein. Et les archives sont un lieu où, me semble-t-il, hein, je ne travaille pas aux archives, mais pour ce que j'en comprends, en tout cas par le biais de cette question, un lieu où en permanence, on lutte à la fois contre la disparition matérielle des objets, et en même temps, on travaille sur l'oubli et avec l'oubli. Parce que finalement, ce qu'on oublie, c'est aussi une mémoire. L'oubli est une mémoire silencieuse. Ce sont des choses qui sont là, en attente d'être revues, relues, en réserve. C'est Italo Calvino qui disait à la fin de sa vie « Je veux être oublié ». Peut-être la meilleure manière qu'on se souvienne de moi plus tard. Et donc voilà, donc il y a cette relation-là. Et puis peut-être un autre élément qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand on parcourt les archives, que moi j'ai découvert, on est face à on a ce sentiment que les textes ne sont pas terminés, parce qu'on est face à différentes versions, des repentirs, un travail, on voit le travail à l'œuvre. Et les rêves, finalement, ne sont jamais terminés. On ne sait pas vraiment quand ils commencent, on ne sait pas où ils s'arrêtent. Et il y a cette espèce de conjonction étonnante entre quelque chose qui est toujours en train de se faire et qui n'est jamais achevé. Donc j'ai envisagé les choses sous ces deux angles-là.
Et vous, Claire ? Moi, ce qui me frappe, c'est la matérialité de ces récits de rêve qui peuvent être sur des carnets, des journaux intimes, des lettres aussi, quand on raconte un rêve à quelqu'un avec qui on est en complicité intellectuelle, des petites notes comme celle de Maurice Roche, des cahiers consacrés aux rêves comme ceux de Béatrice Beck ou de Robert Pinguet. Il y a vraiment toutes les formes possibles, l'écriture extrêmement lâchée, ou au contraire, le texte dactylographié, vraiment fait pour être intégré à l'œuvre littéraire, lu par d'autres, et communiqué d'une certaine manière. On a vraiment tous les registres du laboratoire littéraire et poétique, puisqu'il ne faut pas oublier que les écrivains et les poètes ont une source d'imaginaire dans le rêve absolument extraordinaire, que la psychanalyse n'a pas réussi à éteindre, mais que la psychanalyse a suscité, a aussi encouragé d'une certaine manière. Et ça, c'est intéressant de s'en rendre compte.
Et alors, j'aimerais revenir sur une des expressions, laboratoire. Ça me marque beaucoup parce que vous avez évoqué quelque chose à propos de l'écriture du rêve, c'est que c'est un paradoxe aussi. Quand on écrit le rêve, on est éveillé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on compose avec ça, avec ce paradoxe ?
Alors là, il faut aller voir l'exposition, peut-être aussi lire le livre, puisque tous ces auteurs et autrices tournent autour de cette question. Comment, Paul Valéry nous dit le rêve, finalement, c'est une hypothèse, c'est un souvenir, puisqu'effectivement, personne, sauf erreur, ne peut écrire pendant qu'il est en train de rêver, ou alors, peut-être psychotrope ou expérience particulière. Mais donc, comment on négocie avec ça ? Effectivement, c'est compliqué. Alors, ça prend des formes très variées. C'est ce qu'on montre dans l'exposition et dans le livre. Ça peut aller de la note très fébrile qu'on peut prendre en pleine nuit avec une écriture un peu comme ça, zigzagante. On est encore sous l'aile du rêve, je dirais, pas tout à fait éveillé. Et puis, ça peut au contraire prendre la forme d'une reconstitution, d'une réinvention. Donc, et puis parfois des textes qui s'écrivent deviennent eux-mêmes comme des rêves. Et il y a une porosité aussi qu'on sent parfois entre le récit et le rêve lui-même. C'est ce que Félix Guattari, par exemple, montre très bien quand il fait son recueil de rêves de Franz Kafka. Il dit à un moment donné, quand on lit les rêves de Kafka, on ne sait plus si on est dans un fragment de Kafka ou dans un récit de rêve.
Et de la même manière, il était aussi intéressant de montrer des correspondances entre des auteurs qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui ont entamé une réflexion sur le rêve qui est tout à fait parallèle. Je pense par exemple à Charles-Albert Singria, qui dans les années 50 écrit « Je rêve, donc je suis », qui n'est pas une phrase d'une très grande intérêt intellectuel, mais quand même, quand on voit que dans les années 90, Alain Geoffroy commence une feuille de réflexion sur le rêve en disant « Je rêve, donc je suis », on se dit « C'est quand même assez curieux ». Cette énigme du rêve qui a d'une certaine manière persécuter les gens qui réfléchissent à la chose littéraire, ou qui est quand même un sujet d'interrogation et d'énigme tout à fait étonnant, et qui est le même depuis la nuit des temps et certainement encore pour quelques années à venir. Et c'est tout à fait curieux de voir comment ça se transpose en littérature ou en poésie.
Et on l'évoquait justement tout à l'heure, donc le rêve, ce n'est pas que le rêve, il y a aussi le cauchemar, et il y a un caractère assez dichotomique, comme vous le disiez, parce que certains auteurs avaient les mêmes idées, mais pas forcément en même temps, et à l'inverse, certains auteurs avaient des idées, mais complètement contradictoires. Comment aussi vous avez composé avec ces dichotomies au sein de l'exposition et même au cœur de l'ouvrage ?
Le principe, c'était de montrer un maximum de documents venant d'un maximum de fonds. Donc, qu'ils soient antinomiques, paradoxaux entre eux, finalement, c'est un des intérêts de l'exposition, si on arrive à le distinguer, si quelqu'un vous le montre, etc. Mais c'est une chose absolument normale quand on expose des archives, c'est qu'on arrive à des documents qui se disputent l'attention de la personne qui vient voir l'exposition. Et c'est bien que ça éveille l'attention de cette manière-là.
Oui, et puis ce qui caractérise, me semble-t-il, aussi le rêve, c'est que c'est un moment de très grande porosité, où on peut passer d'un état à l'autre très rapidement. Donc un rêve heureux peut devenir un cauchemar, et peut-être inversement, il y a des cauchemars vrai, absolument terrifiants, notamment celui de Félix Guattari et quelques autres. Henri Michaud, qui n'aimait pas spécialement les rêves de la nuit, disait finalement tous les rêves sont des cauchemars parce qu'on est prisonnier du rêve et on n'est pas lucide. Il y a quelque chose qui nous est ôté. Mais donc, voilà, ce que tous ces textes montrent, et ce qu'on montre dans l'exposition et dans le livre, c'est aussi comment on est dans un espace de transformation et de métamorphose permanent, en réalité, entre les affects et les situations.
Et alors le mystère, la tension entre mémoire et oubli, c'est également tout ce qui plane autour des archives et du rêve, qui se ressemble plus que ce qu'on le croit finalement. Parmi les documents sélectionnés pour l'exposition, on retrouve des journaux personnels, des lettres, des romans, des carnets ou encore des dessins aussi. Et le rêve porte ce caractère instable, comme vous disiez, parce qu'il est insaisissable, mais souvent il est sujet aussi à l'interprétation, et notamment avec l'aspect psychanalyse, au doute, mais aussi à l'oubli. Ce caractère d'interprétation du rêve, est-ce que vous l'avez aussi mis au cœur ? Est-ce que vous avez souhaité le mettre au cœur de l'exposition ?
De l'exposition et du livre ?
Et du livre, bien sûr.
Oui, bien sûr, cette interprétation du rêve dans les années 20, ça arrive en France par les traductions de Freud. Et les années 20, c'est aussi les années du surréalisme. Donc on a, avec l'arrivée de la psychanalyse en France et la lecture finalement assez pédagogique de la psychanalyse, on a aussi une très grande inventivité littéraire, celle des surréalistes. Et ça, on le voit dans l'exposition, on le voit à certains poèmes d'Éluard, à certains textes de Breton, de Chat, publiés dans la Révolution surréaliste. Mais aussi, on le voit par la suite, comme l'enjeu, ça a été finalement de ne pas laisser assécher l'imaginaire par la psychanalyse, tout en profitant de cet éventail d'interprétations extraordinaires vers l'Antiquité, vers des tas de figures vraiment sublimes et en même temps habituelles de la littérature, un certain nombre de textes qui étaient produits par les écrivains et les poètes, et d'une certaine manière, de leur propre aveu, ils ont surmonté la crise psychanalytique pour revenir à l'imaginaire.
Et Olivier, je vais me tourner vers vous. Alors, demain paraîtra votre ouvrage « Fragments du rêve », une sorte d'enquête donc autour du rêve et son caractère insaisissable qui pose cette grande question. Les rêves échappent-ils au secret ? En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter cet ouvrage et les ambitions qui vous ont motivé, guidé dans son écriture ?
Oui, alors, j'ai eu à cœur de... Parce que c'était vraiment aussi... l'objet de ma rencontre avec ces archives, de partir vraiment des textes eux-mêmes, de ne pas leur imposer une logique qui viendrait de surplomb. Donc je ne les ai pas classés, par exemple, pour dire ce que je n'ai pas fait rapidement, de façon chronologique ou thématique. J'ai essayé de partir des textes, de ce qu'ils me disaient, ce qu'ils suscitaient, et voilà, d'avancer déjà avec une attention à la forme, aux matériaux. Ils sont très, très divers, en fait. On a des lettres, des poèmes, et c'est écrit sur des fiches Bristol ou sur des petits bouts de papier. Enfin, tout cet aspect très matériel est très intéressant. Et il dit quelque chose aussi de la façon d'écrire les rêves, très certainement un peu mystérieuse, d'ailleurs, difficile à dire. Est-ce qu'on écrit le même rêve sur du papier A4 ou sur un petit bout de papier griffonné? Peut-être pas, du reste. Et puis, voilà, la façon que j'ai de composer le texte, c'est d'essayer de... Je me suis un peu inspiré de cette idée qu'au fond, le rêve est un travail, qu'on trouve chez Freud, qu'on trouve aussi chez René Lourau, qui parle de la logique du rêver, et de me dire, au fond, quelles sont les opérations du rêve. Comment ça fonctionne, un rêve, et comment, à travers ces différents textes, qui parlent de plein de choses, hein, des rêves d'angoisse, de désir, sur l'histoire contemporaine, de leur histoire contemporaine, comment ça s'articule, et comment voilà, les rêves sont des opérations d'assemblage, de montage, de sensations, d'idées, voilà, une sorte de logique à la fois disjonctive et par association avec des moments de rythme, des fulgurances aussi. Parce que finalement, c'est une des grandes questions, quelle est la différence entre le rêve et la réalité? Quand je vous parle, on est peut-être en train de rêver, et quand je rêve, je suis peut-être dans la vraie réalité. Quelle est la différence? Finalement, le rêve, c'est extrêmement réel quand on l'analyse. La différence, c'est l'assemblage, justement, c'est le montage. Et les logiques du rêve sont des logiques d'association qui ont fasciné tous les artistes, et les psychanalystes, et les anthropologues. Donc je me suis intéressé à cela, surtout, et j'essaie de restituer ces logiques d'association très, très curieuses. Et puis j'ai progressé vers... disons un imaginaire romantique, vers des choses plus contemporaines, notamment des textes fascinants de Jean Cayrol, l'auteur de La nuit et le brouillard, le poème de La nuit et le brouillard, qui a recueilli des rêves de co-détenus dans les camps de concentration, hein, et qui raconte que ces hommes et ces femmes qui rêvent, finalement, reprennent pied avec leur véritable humanité au moment de leur rêve.
Du coup, je le rappelle, Fragments du rêve sera disponible demain, le vendredi 6 juin, aux éditions LIMEC. Claire, Olivier, un grand merci pour ce temps d'échange.
Merci.
Alors, Fragments du rêve, ça commence donc ce soir avec un vernissage qui sera marqué par son premier temps fort à 19h30 avec la projection de La petite marchande d'allumettes de Jean Renoir, sélectionnée par le conservateur du Musée national d'art moderne dans les collections filmiques Philippe Alain Michaud. Demain, le 6 juin, le livre d'Olivier Schaeffer, Fragments du rêve, sera lui aussi un autre temps fort de l'exposition. Il sera disponible aux éditions de l'IMEC. Et Fragments du rêve sera à découvrir du 6 juin au 30 novembre entre les murs de l'abbaye d'Ardenne à Saint-Germain-la-Blancherbe à l'IMEC. Alors avant de retrouver les jeunes ambassadrices de la culture qui nous parleront des missions accomplies tout au long de l'année au sein de la structure, je vous propose qu'on se laisse quelques minutes sur une pause musicale. Leur duo résonne avec pop acidulé mais aussi tranquillité. Le 14 février, elles sortaient leur première EP Cocon, 5 titres pour raconter le confort d'être au coin du feu dans une maison, les petites peurs passées sous les orages et bien sûr la construction des cabanes qui font du bien. C'est tout le projet de Cold Lemonade et de leur EP qui résonne aux notes de ce qui les enveloppe et les protège. Ici, une cabane au coin de la clairière. Tout de suite, on s'écoute La cabane sur Phoenix de Cold Lemonade.
Une main sur le macadam, la décision est prise, construire une cabane, casser la brise. Elle ne sait pas les essences, ne sait pas les arbres, mais les souvenirs en marbre lui donnent la cadence. Le plan est déjà prêt, il ne faut pas fléchir.
Agent au coucher, impossible de dormir.
Brique après brique, elle est là, la cabane dans les bois. Rive après rive, il est là, le cocon de tes doigts.
Claire sème la clairière, juste une bouffée d'air, appréhender les signes.
Quand les tourneaux s'envolent, il n'en faut pas plus, rien qu'une hyperbole.
presque ininterrompu. L'idée est bien choisie, et la cabane aussi. Dans quelques semaines sera notre domaine. Brique après brique, la, la cabane dans les bois. Rive après rive, il est là le cocon de tes doigts.
C'était la cabane de Cold Lemonade. Vous êtes toujours sur Phoenix en direct de l'IMEC à l'occasion du vernissage de leur dernière exposition Fragments du rêve. Alors, on ne reçoit pas encore tout de suite les jeunes ambassadrices de la culture, mais en attendant, nous retrouvons Cyril, chargé de développement à l'IMEC, pour revenir sur les temps forts de cet été, celui des Jardins d'Ardennes, comme on les appelle. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Romane.
Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter les Jardins d'Ardennes? C'est quoi les objectifs?
Ah bah alors, les Jardins d'Ardennes, c'est un petit jeu de mots, hein. Plein de poésie, mais surtout plein d'été. L'idée, c'est une petite campagne, ce sera la troisième année, qu'on diffuse un petit document sur l'agglomération cannaise et qui récapitule, qui résume tous les possibles à l'abbaye d'Ardennes, à l'IMEC, pendant l'été. Donc on va revenir ensemble là pendant les quelques minutes qu'on a à passer ensemble dessus. Mais c'est d'abord pour parler de l'exposition. Et là, tu as eu les meilleurs invités possibles pour aborder cette question. C'est évidemment pour parler des jardins, parce que peu de Cannaises savent que c'est un lieu qui est accessible gratuitement toute l'année. Il suffit de voir quand c'est ouvert et a priori, vous serez toujours les bienvenus. Et puis après, il y a le café, la bibliothèque, toutes ces choses qu'on va évoquer ensemble.
Eh bien, du coup... Je te propose qu'on se lance. C'est cet été, donc l'IMEC proposera toute une série d'actions et d'activités auxquelles participer, assister, je dirais même des moments à ne pas manquer finalement. Et alors, c'est quoi ce programme?
Alors ce programme, avant de revenir sur les événements en tant que tels, il y a la bibliothèque, puisqu'il y a quand même pas mal de gens là aussi qui ne le savent peut-être pas encore, mais cette bibliothèque, elle est ouverte à toutes et tous, et vous avez là plein de bouquins que vous pouvez venir chercher. Nos jeunes ambassadrices le savent très bien, et ensuite vous installer dans les jardins pour en profiter. Il y a une mine d'or hein, en termes de romans, poésie, théâtre, cinéma, plein de choses à découvrir. Donc cette bibliothèque, sachez-le, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et puis du point de vue programmation en tant que tel, on a d'abord des visites historiques tout l'été avec nos partenaires de la région Normandie. Hein, vous êtes quand vous arrivez ici, vous êtes sur un site propriété de la région Normandie. Notre association, elle est arrivée il y a 25 ans, mais on travaille avec les agents de la région pour faire découvrir ce patrimoine historique toute l'année. Donc là, vous avez des créneaux fixes le mercredi, le jeudi, c'est 14h30 puis 16h, si je ne me trompe pas, mais je suis sûr de moi. Donc vous pouvez venir pour découvrir l'abbaye d'Ardennes. C'est vraiment une visite historique. Et un petit mot, bien sûr, de contexte sur l'IMEC et ce qu'on fait ici. Et puis après, tu fais certainement référence, quand tu parles de programmation, au petit concert acoustique. Donc ce sera... ça fait quelques années maintenant qu'on a le plaisir d'accueillir ici des groupes de la scène locale, des groupes émergents, plus ou moins confirmés d'ailleurs, mais qui ont toutes et tous, je dis ça parce qu'il y a quand même autant de femmes que d'hommes depuis le début quasiment, ces artistes ont toutes et tous une idée à partager de la place du texte dans leur création. C'est des personnes qui viennent certes nous jouer quelques morceaux en plein air, sous le soleil. Oui, il y a du soleil parfois. sur la terrasse du petit café de l'IMEC. Donc c'est des événements qui sont toujours gratuits. Hein. Vous pouvez venir ici en famille, entre amis. Il y a entre 150 et 200 personnes quand même. Ces artistes-là, ils nous jouent quelques chansons, mais parfois ils nous lisent un texte, ils nous donnent à voir une étape d'écriture, parce que c'est quand même ça dont on parle ici toute l'année, c'est la manière dont un texte naît, dont il arrive à être partagé. Donc des références, des influences, des inspirations.
D'ailleurs, Cold Lemonade, qu'on a pu s'écouter juste avant, fait partie de ces artistes.
Voilà, cette année, on a le plaisir d'accueillir Amélie et Lauriane, pardon. Je crois qu'elles sont là ce soir, d'ailleurs. Ce serait vraiment top de partager ce vernissage avec elles. Donc, on aura Cold Lemonade, c'est le 9 juillet. Il y a le Tour de France, mais il y a aussi le concert acoustique de Cold Lemonade à l'IMEC. Et puis le 27 août, on aura le plaisir d'accueillir Valentin Barbier. Donc, c'est un projet solo d'un artiste bien connu des musiciens et des amateurs de musique dans le coin, puisqu'il a fait partie de plein de groupes, il est sur plein de projets, il partage beaucoup sa passion et c'est surtout un super compositeur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc on a le plaisir de l'accueillir le 27 août. Ce sera le deuxième concert de l'été, il n'y en a que deux, c'est facile à retenir. Et celui-ci, petite innovation, il s'inscrit juste avant au calendrier d'une projection en plein air donc de Wes Anderson. Ce sera le film Moonrise Kingdom qui a été sélectionné par le luxe, le cinéma luxe, pour une belle programmation, une belle projection en plein air en lien avec le millénaire de la ville de Caen. Il y a une quinzaine de dates, je crois, de projection en plein air et il y en a une ici. Donc 9 juillet, Cold Lemonade, concert acoustique, expo autour du rêve à l'IMEC à la Ville d'Ardennes avec les jardins. Et le 27 août, on duplique avec Valentin, suivi d'une projection en plein air.
Eh bien, on note bien toutes ces dates pour l'été. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire cet été, mais peut-être pour nos auditeuristes qui souhaiteraient s'y rendre, découvrir l'IMEC, où peuvent-elles retrouver toutes les informations ?
Je vous invite, pour moi, le moyen le plus simple, peut-être le plus évident, c'est la lettre d'information. Vous recevrez chaque début de mois tout ce qui va se dérouler chez nous ou autour de nous et avec qui on va le faire. Ça vous parle aussi des auteurs en résidence, ça vous parle des bourses de recherche, parce qu'on a beaucoup de partenariats recherche, évidemment, autour de nos collections. Ça va vous parler des actions scientifiques. On a certes des conférences et des rencontres toute l'année et des événements qui sont ouverts au public, gratuitement toujours, je le précise. Mais on a aussi beaucoup d'actions, de séminaires, des colloques, des journées d'études avec des chercheurs sur des thématiques précises qui sont ouvertes au public, aux étudiants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter pour suivre nos actualités. Et puis, si vous êtes curieux et si on vous a suffisamment donné envie, passez-nous voir cet été, pourquoi pas, notamment au Petit Café, les ateliers, donc, qui vient d'ouvrir ses portes. Il est inauguré chaque année en même temps que l'expo et il sera là pour vous accueillir tous les après-midi d'ouverture d'expo, donc du mercredi au dimanche de 15h30 à 18h, jusqu'aux journées du patrimoine.
Eh bien, je crois que toutes les informations sont données. Ben, merci beaucoup, Cyril.
Merci à toi, Romain. C'était un plaisir.
Alors, je vous fais un petit rappel des temps forts autour de l'exposition Fragments du rêve. Donc, ce soir commence le premier avec la projection de La petite marchande d'allumettes de Jean Renoir à 19h30. Il ne s'agira pas là de la seule proposée, puisque le 27 août 2025, vous pourrez voir sur grand écran Moonrise Kingdom du réalisateur Wes Anderson, une projection signée en partenariat avec le cinéma luxe et précédée d'un concert, comme nous disait Cyril. Donc ce ne sera pas tout, puisque deux workshops seront organisés avec les étudiants de Les Âmes Caen en compagnie d'Olivier Schaeffer, qui était présent avec nous ce soir autour de l'écriture du rêve, et un autre avec Virgile Novarina, cette fois-ci à destination des jeunes artistes de la Millennial Academy de Caen, autour de la thématique dormir éveillé. Et si vous demandez d'ailleurs où et comment les chanoines de l'abbaye d'Ardennes dormaient, l'IMEC vous propose de le découvrir tous les vendredis à partir de 14h30 au travers d'une visite commentée qui plongera l'enquête autour de la place du rêve à l'IMEC. Enfin, vous retrouvez une dernière série d'animations avec les siestes littéraires mensuelles. Un mercredi par mois, une sélection de textes donne lieu à une lecture à voix haute par les étudiants du Conservatoire de Caen. Alors, ce lundi 2 juin, la belle antenne vous faisait découvrir l'artiste Felto et son morceau « Je pense après ». Aujourd'hui, on recommence et cette fois-ci, c'est avec « Sommeil, sommeil ». Loin de délaisser ses guitares grunge au profit des synthés planants et électro qui donnent toute sa teinte mélancolique au morceau et à sa voix posée, Felto se raconte sous une nouvelle facette, une qu'on lui connaissait déjà lors de son précédent album « Nuit noire » qui avait déjà tout de ses insomnies. « Sommeil, sommeil », c'est tout de suite sur Phoenix.
Dans le fond, je crois que je perds mon temps. C'est pas comme avant. Je sais plus si je le veux vraiment. Et parfois j'aimerais pouvoir tout oublier, juste pour une journée, savoir ce que ça fait. Sommeil, sommeil, tu ne
convient pas. Ce que j'ai souhaité, ce n'était pas moi. Je me retrouve encore au même endroit. J'ai cru à quelqu'un qui n'existait pas. Faut pas que je regrette. C'est juste comme ça que je suis faite. Pleine de conneries dans la tête. Maintenant, je ne suis pas celle que je devais être. Vraiment. Et quand tout gèlera dans ce monde que personne ne voit. Le problème c'est pas toi, mais je le pense quand je suis comme ça. Ce que j'ai souhaité, ce n'était pas moi. Je me retrouve encore au même endroit. J'ai cru à quelqu'un qui n'existait pas. Sommeil, sommeil, tu ne viens pas. Ce que j'ai souhaité, ce n'était pas moi. Je me retrouve encore au même endroit. J'ai cru à quelqu'un qui n'existait pas.
Sommeil, sommeil de Felto sur Phoenix. On accueille maintenant Arthur et Iris, jeunes ambassadrices de la culture à l'IMEC. Bonsoir Arthur et bonsoir Iris.
Bonsoir.
Alors, le dispositif Jeunes Ambassadeurs de la Culture est un dispositif lancé par Caen la Mer en partenariat avec l'Académie de Normandie et proposé depuis 2017 aux lycéens, lycéennes pour leur permettre de développer des liens forts avec les structures culturelles de l'agglomération cannaise. Arthur, Iris, vous participez à ce dispositif. Vous avez réalisé de nombreuses missions au sein de l'IMEC cette année. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir jeune ambassadrice de la culture ?
Eh ben, je pense que premièrement, ce qui nous a motivé, c'était d'avoir un lien avec une structure, peut-être en plus des cours, avoir un investissement à côté où on pouvait y aller de temps en temps et développer des projets. On ne savait pas quoi au début, mais c'est un peu approprié la chose.
Et l'IMEC, c'est une structure qui est un peu secrète, donc c'était super intéressant de s'intéresser surtout à cette structure-là.
Ça vous bottait bien l'aspect secret de l'IMEC. Donc comme on le comprend, vous avez créé un lien fort avec l'IMEC et t'en as un petit peu parlé Arthur, mais vous avez eu de nombreuses missions au cours de cette année. Est-ce que vous pourriez nous les présenter un petit peu, ces missions?
On a fait plusieurs choses, ouais. La première chose vers quand on s'est tourné, c'était de faire des vidéos, en tout cas pour découvrir les lieux, enfin on les avait déjà découverts, mais pour les partager, on a tourné des petites vidéos qu'on a montées et qu'on a plus ou moins diffusées, donc c'était la première chose qui nous est venue à l'esprit.
Ouais. Et après, on a organisé une rencontre littéraire donc avec une autrice, Lucie Barrett. Et c'était super intéressant parce qu'on s'est occupé d'un côté de la communication dans nos lycées et également d'organiser cette rencontre, donc en amont déjà avec l'autrice, puis après lire le livre, faire les questions, etc.
C'est beaucoup de responsabilités. Comment vous les avez vécues justement, ces responsabilités-là?
Je pense qu'on nous a fait beaucoup confiance. Ça nous a mis, ça nous a mis à l'aise. Et aussi, l'autrice était super, super intéressante, super sympathique. Elle était jeune.
Oui, c'est vrai.
Ouais, ouais. Mmh. Très vivante, ouais.
Oui. Même si on n'a pas posé tant de questions que ça, elle a beaucoup développé à chaque fois. C'était assez riche, c'est intéressant.
Mais à l'image aussi de tout ce que vous avez accompli à l'IMEC, parce que donc la vidéo, la rencontre avec l'autrice, mais aussi le montage de certaines expositions, l'accueil des publics de certains événements aussi, et l'organisation de résidences et de rencontres. Enfin, en tout cas, vous savez ce que c'est une résidence aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est une résidence ?
Une résidence, c'est à l'IMEC, mais même ailleurs aussi, c'est des artistes, des écrivains, des musiciens aussi, je crois, ouais. Ou surtout écrivains, mais écrivains. Chercheurs en tout cas aussi, qui viennent à l'IMEC pendant une semaine, deux semaines, pour accéder aux archives, vu que l'IMEC, c'est aussi un grand centre d'archives, accéder aux archives, faire des recherches, se documenter, peut-être se ressourcer s'ils écrivent des livres, etc. Être un peu coupé du monde. Il y a un restaurant à l'IMEC, ils dorment sur place et ils se plongent dans une recherche ou une écriture.
Oui, c'est ça. Ils sont complètement plongés dans leur travail. Et ce qui leur est proposé, c'est un accompagnement aussi, parce qu'il y a des gens qui sont professionnels de sujets super divers, notamment la bibliothèque. On peut accéder à des livres et des brouillons d'écrivains, des choses dont les bibliothèques et les médiathèques municipales, par exemple, n'ont pas accès. Et notamment les bibliothécaires, en général, elles les guident vers des ouvrages qui pourraient l'intéresser. Voilà, s'ils écrivent un mémoire, s'ils écrivent des recherches, une thèse, des thèses, et puis des livres, tout simplement, des romans.
Qu'est-ce que vous retenez de vos missions cette année à l'IMEC ?
Je pense que déjà, on a découvert un très beau lieu qu'on ne connaissait pas du tout. On a assisté à plusieurs rencontres le soir et c'était plutôt intéressant. Certaines un petit peu moins, mais globalement, si, c'était très intéressant. Il y en a vraiment passionnantes. Du coup, on a découvert ce lieu, on a pris quelques compétences pour organiser l'événement. Déjà, c'est la première fois pour moi. Iris avait déjà un peu d'expérience.
Mais c'est vrai qu'on a découvert que l'IMEC, ce n'était pas simplement un centre d'archives. Du coup, c'est complètement un lieu culturel, justement, comme dit bien les Jacques. Et aussi des gens très sympathiques, très ouverts, très humains, justement.
Dans des domaines assez variés et un peu étonnants, mais qui sont intéressants.
Ouais. Très érudits. Toujours des conversations très riches. Ouais.
Beaucoup d'expériences, finalement, retenues de tout ça à l'IMEC. Alors, question plus large avant de se quitter. Pour des lycéens, lycéennes qui hésiteraient encore à se lancer dans le dispositif, qu'est-ce que vous leur conseillerez ?
Moi, je conseillerais de choisir une structure qui est en accord avec leur passion. Parce que c'est bien plus simple, c'est d'autant plus simple de s'investir complètement quand on aime ce qu'on fait, finalement.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de retours. Nous, je sais que dans notre lycée, il y avait des gens des années supérieures qui les avaient fait. Donc, ils peuvent toujours demander à des gens qui l'ont déjà fait ou se rapprocher des structures avant de s'inscrire.
Ça donne des bons contacts aussi.
Ça donne des contacts.
Si on aime bien faire quelque chose,
c'est bien. Rencontrer des gens, c'est vraiment cool à faire.
Ouais, ça, c'est bien.
Ces conseils sont donnés à nos auditeuristes qui hésiteraient encore. Arthur, Iris, un grand merci à vous deux.
Merci.
Alors, je vous propose qu'on refasse une pause musicale, cette fois-ci avec Roux Pérou. Alors, le quatuor canet continue d'expérimenter et d'improviser autour de mélodies légères et planantes auxquelles personne n'échappe. C'est un morceau qui aurait finalement presque pu être pensé pour l'exposition Fragments du rêve, parce qu'il pose sa cartographie d'un territoire imaginaire décrit par le groupe comme une fresque aussi joyeuse que sombre, à la lisière du positif et du bizarre, comme il le dit si bien. Et tout de suite, je vous propose qu'on s'écoute Dreamland du quatuor canet Roux Pérou sur Phoenix.
Thank you.
c'était Dreamland de Rouperou, morceau éponyme de leur premier album avec le label Toujours, un premier album marqué par ses graphismes forts et son territoire imaginaire qui rappelle sans cesse leur propre terrain d'expérimentation musicale. Alors pour cette fin d'émission, il va malheureusement falloir quitter le monde des rêves, mais peut-être pas celui de la nuit, et c'est tout le projet d'un autre de nos artistes locaux, Rosso. Après Première Nuance, son EP 6 titres et son single sorti comme un cadeau de Noël le 25 décembre 2024, C'est Zinze, l'artiste Canet revient pour de nouvelles sonorités plus intimes, sensibles, qui permettent, comme il l'écrit dans un post sur Instagram, d'en apprendre plus sur lui. Introspectif, Si qui dure Ad Astra marque un tournant dans l'univers musical de Rosso qui essaie de s'élever au-delà des étoiles, même si elle n'occupe pas toujours ses nuits. Et tout de suite, on s'écoute Nuit sans étoiles de Rosso.
Sur le tableau noir derrière, tu peux pas trop me voir partir. En plus de la fumée qui me cache, me sens perdu, je vis lâche. Pas besoin d'épiloguer pour voir que Vénus, c'est un sujet qui fâche. Donc je me concentre et je roule cette merde. Donc j'abandonne et je roule cette merde. Je me perds dans le désert de ses yeux, j'y resterai pour qu'elle m'aime. J'ai juste besoin de voir les tempêtes s'agiter. La grande tache rouge remplace le bleu du ciel. Non, je veux plus de celle qui m'a brisé, je veux celle qui m'a piqué. Je crois bien que les étoiles me jouent des tours. Je me sens perdu. Je me sens perdu tous les jours. Mais quand je pars seul dans le vide, j'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. Même si j'ai pas confiance en ce monde et encore moins en ce qui émane de lui. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. Mon amour, je t'écoute, on fait quoi, on le fait comment? C'est moi que tu veux dans ta vie, mais je t'ai pas dit la mienne, j'ai plus les commandes. Hey, c'est pas moi, c'est Bénu qui fout la merde. Mais c'est moi qui l'allume, le regard de la lune laisse un goût à moi. Alors j'essaie de rêver, mais Freddy n'est pas loin, il veut en découdre. Donc je pars en balade nocturne avec toi dans ma tête et du louvre dans les écouteurs. Hey, au final j'en rallume un. Éclairer le tableau reste inchangé. Comment je peux comprendre ce que je ressens, je comprends pas l'humain. Je crois bien que les étoiles me jouent des tours. Je me sens perdu. Je me sens perdu tous les jours. Mais quand je pars seul dans le vide, j'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. Même si j'ai pas confiance en ce monde et encore moins en ce qui émane de lui. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous. Même si j'ai pas confiance en ce monde et encore moins en ce qui émane de lui. J'ai ton cœur, j'ai pas besoin de douter de nous.
C'était Nuit sans étoiles de l'artiste canet Rosso, extrait de son dernier EP Si qui dure Ad Astra, sorti le 27 mai 2025. La belle antenne en direct de l'IMEC, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous nos invités du soir qui nous ont emmenés sur les traces du rêve, qui, je le rappelle, sont à retrouver du 6 juin au 30 novembre 2025 à l'IMEC, dans l'abbaye d'Ardennes. Un grand merci également à Émile qui a assuré la technique et sans qui vous n'auriez pu m'entendre. Il est maintenant temps de laisser l'antenne. Bonne soirée à vous à l'écoute de Phoenix et à lundi pour vos prochaines doses quotidiennes d'actualité culturelle.